partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Paul Nathan au micro de Radio IDFM, avec Francky à la technique, bonjour Francky. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez sur Radio IDFM, merci d'avoir choisi notre antenne et d'être fidèles au rendez-vous. En préambule, je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2023. J'espère qu'elle sera bonne et surtout la santé qui nous permet de mener à bien tous les projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Aujourd'hui, au sommaire de l'économie en direct, eh bien, ça sera une émission technique. Nous avons trois entreprises de secteurs très différents. Nous recevons Sébastien Fay qui dirige la société FCA, entreprise spécialisée dans la rénovation et l'isolation de l'habitat. Bonjour Sébastien. Nous avons Cyril Vu qui dirige le groupe Airpro Group, leader en France dans le domaine de la fabrication additive et de l'injection plastique. Mais c'est beaucoup de choses, donc on va revenir en détail là-dessus. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Et enfin, Alain Bérecbaum, qui dirige le groupe Partner NC, dont les deux sociétés phares sont Partner NC et Prodex, j'allais dire and Prodex, on se met de suite dans l'international, donc commissionnaire de transport international, et on reviendra en détail aussi, parce que c'est plein de métiers.
Bonjour.
Nous allons commencer avec Sébastien, donc qui dirige la société FCA, Sébastien Fay. Donc FCA est une entreprise spécialisée dans la rénovation et l'isolation de l'habitat, qui réalise des travaux dans les domaines du ravalement des façades, de l'isolation thermique, de la peinture, et j'ai vu de la menuiserie métallique et PVC. Donc si vous pouviez vous présenter et présenter votre société.
Bonjour Nathan. Écoutez, excellente année également pour vous.
Alors c'est Paul, vous pouvez y aller.
Ah oui, effectivement, d'où le prénom.
C'est le problème.
Bonjour Paul, et excellente année également à vous pour 2023, en espérant qu'elle soit effectivement très prospère à l'ensemble des gens qui sont à cette émission. Effectivement, quelques mots sur FCA. Donc c'est une société qui a été fondée en 1988. À la base, on était spécialisé beaucoup dans la partie ravalement. Et puis donc au fur et à mesure de l'évolution vers l'isolation, on s'est spécialisé vers tout ce qui est domaine, donc l'isolation thermique extérieure, du bâtiment, donc tout ce qui est coque, aussi bien donc des murs, des toitures et des façades. Cette société y était constituée de 120 collaborateurs sur un seul et unique point, donc en Île-de-France, à Colombes. Et puis donc en 2006, le gérant a décidé de diviser, de revendre sa société.
C'est un problème de succession, c'est ça ?
C'était, on peut dire, un problème de succession, de reprise d'entreprise. Et donc, il a proposé à ses cadres de reprendre l'entreprise en fonction des choix de chacun et du taille d'entreprise qu'on avait en tête, donc de diviser le secteur de l'Île-de-France en quatre. Donc, on est parti sur quatre structures qui étaient donc dites de proximité. Et au bout d'un an et demi à deux ans, le chiffre d'affaires de ces structures a doublé, en fin de compte, le chiffre d'affaires initial. Donc, l'ancien gérant, qui était actionnaire de nos sociétés, a décidé de franchiser le concept et notre savoir-faire sur le réseau national. On a donc vu jusqu'à une quinzaine d'entreprises fleurir, donc 15 sociétés FCA sur tout le réseau français. Et puis, il y a un gros industriel qui est venu et qui s'est intéressé à cette société. Il a donc racheté la franchise et en rachetant sa franchise, cette franchise, il a souhaité imposer forcément son nom de fabrique, chose qui n'était pas forcément du goût de tout le monde. Et donc en décision bien réfléchie avec l'un de mes confrères aujourd'hui FCA, on a décidé nous de sortir du réseau de franchise et de maintenir, en tout cas d'essayer de maintenir la marque FCA. qui a effectivement une très bonne notoriété sur l'île de France. Au bout de 2 ans de négociations...
Juste une question. Les 13 sociétés avaient l'enseigne FCA.
Tout à fait, oui.
Donc et vous aussi. Donc à un moment, en sortant, vous avez perdu la possibilité d'utiliser l'enseigne FCA ou comment ça s'est passé? Parce que normalement, dans une franchise, on doit respecter tous les critères reliés à la franchise. Donc à partir du moment où on veut se retirer, on n'a plus le droit d'utiliser l'enseigne.
Alors tout à fait, et ça a été effectivement le gros point de négociation. Le gros on va dire industriel a voulu lui donc renommer, rebaptiser effectivement cette franchise FCA avec un nom que je ne peux pas citer, mais en l'utilisant,
en changeant le nom d'FCA. D'accord. Et donc, je croyais que c'était le nom d'FCA qui l'avait racheté et qui voulait conserver.
Et non, le nom FCA voulait tout simplement être on va dire rayé des cartes pour passer vers le nom commercial de ce gros industriel. Donc du coup, la grosse négociation s'est portée effectivement là-dessus. On a réussi effectivement à conserver le nom FCA. On a racheté la marque FCA avec mon collaborateur, donc Monsieur Plantelin. Et aujourd'hui, on est les deux, on va dire, principaux à pouvoir utiliser cette marque sur l'île de France. Donc FCA continue à vivre. Notre objectif est bien évidemment de le développer et de faire que cette marque continue bien évidemment à rester leader dans son domaine. Donc on est très fiers d'avoir réussi à faire cette, on va dire, cette opération. D'autant plus que l'annonce nous avait été faite un mois juste avant le Covid, où on nous a dit, voilà, FCA va disparaître, ce sera tel nom d'entreprise qui va prendre la place. Et on nous a dit, un mois après, rentrez chez vous, on était tous confinés.
Donc ça c'était, on finit par perdre la notion du temps en 2020.
Exactement. Voilà un petit peu l'histoire d'FCA.
D'accord, c'est une belle histoire. Donc vous avez... racheté. Alors c'est pour ça que sur votre site on voit FCA IDF et en fait votre collègue il est basé à quel endroit? Dans le sud de Paris?
Voilà, c'est ça. Donc en fin de compte,
Paris est divisé en deux grosso modo.
C'est ça, on peut dire qu'il y a FCA Nord et FCA Sud. Et l'autre agence est basée à Sceaux.
D'accord, parfait. Alors, maintenant qu'on a j'ai planté le décor, on va aller un cran plus loin sur rentrer un peu dans le détail des métiers, de ce que vous faites, de tout ce qui est isolation, les obligations en particulier par rapport à toutes les règles des passoires thermiques. Aujourd'hui, où en est le marché et où vous en êtes?
Alors écoutez, c'est un marché qui est bien évidemment en ce moment extrêmement porteur, puisque aujourd'hui tout le monde cherche à faire des économies d'énergie. D'ailleurs le gouvernement aide énormément et soutient bien évidemment les foyers les plus modestes pour la rénovation énergétique. Donc on a une demande qui est relativement forte. Alors il faut faire très attention, puisque dans les marchés, on va dire, très fortement soutenus, il y a aussi énormément de sociétés toxiques. Mais aujourd'hui, des sociétés historiques comme les nôtres, de par notre ancienneté, ça fait que maintenant 35 ans que la marque existe, on a quand même beaucoup d'arguments au travers de notre historique, notre savoir-faire. Et puis bien évidemment, on propose des produits premium avec des caractères de plus en plus éco-conçus, dont je vous parlerai tout à l'heure, puisqu'on a décidé en 2023 de... lancer un produit et donc des systèmes qui sont beaucoup moins, on va dire, à base de pétrole. Donc ça, c'est
un sujet qu'on en reparlera après,
mais qui est important. Alors nous, en fin de compte, FCA...
Surtout par rapport à ce que vous venez de dire et des sociétés toxiques, c'est les fameuses pubs qu'on voit, faites votre rénovation pour 1 euro, c'est ça?
Voilà, c'est effectivement les fameuses publicités à 1 euro, c'est effectivement les sociétés qui surgissent comme ça de nulle part et qui ont des moyens colossaux pour communiquer auprès des radios ou auprès des... voire même de la télé, et qui sont...
Oui,
sociétés...
ou sur les sites internet avec toute une série de pubs.
Exactement.
Où voilà. On vous dit... grâce à l'État, 1 euro.
C'est
alors,
ça.
En réalité, il y a quand même des aides, mais pas à hauteur de, j'allais dire, un coût net de 1 euro, c'est
non,
ça?
Non, c'est pas possible. Que déjà, la réglementation dit que systématiquement, il doit y avoir au minimum un reste à charge de 10% à un client par rapport justement à un maximum d'aides données. Donc, toutes ces aides-là sont des aides effectivement qui ne peuvent pas sur le papier exister. Et donc, c'est financé par des moyens assez particuliers, donc qu'on n'a pas accès, nous en tout cas, et qui sont de toute façon pas possibles, en tout cas pas envisageables. Maintenant, les aides sont quand même redevenues à des niveaux un petit peu plus bas. On a l'impression que le marché va se diriger vers plus de l'offre globale et non pas de l'offre monolo. Donc le fait d'isoler ses combles, le fait d'isoler ses fenêtres, le fait d'isoler sa façade. Aujourd'hui, les aides, en tout cas les pouvoirs publics, même si on n'a pas encore la totalité, on va dire, des dispositifs et des textes pour 2023, l'offre thermique globale, la rénovation énergétique globale devrait être quelque chose qui va, je pense, être favorisé dans justement l'accompagnement des aides au niveau de l'État.
D'accord, parce que aujourd'hui, il y a une aide, je veux isoler mes combles, il y a une aide, je veux changer mes fenêtres, il y a une aide, je veux faire de l'isolation thermique,
c'est ça.
Il y a une aide.
C'est ça. C'était beaucoup de dispositifs lot par lot, alors qu'on arrive gentiment vers plutôt une offre globale, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose.
Plus logique.
Exactement.
Parce que si, j'allais dire, mes murs sont une vraie passoire, ok, je mets des fenêtres qui isolent, mais voilà, je réduis un peu mon exposition, mais pas franchement.
C'est ça, c'est que il faut bien évidemment raisonner globalement sur un bâtiment plutôt que de raisonner lot par lot. Si on prend un exemple beaucoup plus flagrant que celui que vous donnez, c'est on va mettre une chaudière très performante sur une maison qui est mal isolée. Ok, la chaudière en soi va moins consommer que l'ancienne chaudière, mais vos murs vont toujours rester autant déperditifs et donc malheureusement c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc l'idée c'est déjà d'isoler un bâtiment pour ensuite amener des systèmes de chauffage performants et non pas s'amuser à faire des systèmes, on va dire, de chauffage performants dans une maison qui n'est pas isolée.
Alors, on parle beaucoup d'isolation thermique par l'extérieur, donc ITE.
Oui.
Mais il y a aussi de l'isolation thermique par l'intérieur. Et en fait, l'arbitrage se fait comment? Comment on va aller vers l'un plutôt que vers l'autre? Prenons un exemple. Je suis dans une copropriété et il va falloir que j'envisage de me mettre aux normes ou de faire un ravalement et peut-être d'en profiter pour me poser d'autres questions. Comment va se faire l'arbitrage et comment va se dérouler l'opération à partir du moment où la copro décide de rentrer dans un processus d'isolation au sens large?
Alors idéalement, c'est de faire déjà ce qu'on appelle un bilan thermique pour comprendre effectivement quels sont les points faibles du bâtiment. Donc une fois qu'on a compris...
Alors qui fait le bilan thermique?
Alors ça peut être effectivement un architecte.
C'est l'archi. Donc voilà. C'est un espèce d'audit qui est fait.
Exactement.
Par...
Exactement, il y a des sociétés spécialisées aussi qui font des audits. Les sociétés aussi qui sont justement, équipés pour le faire, peuvent tout à fait proposer de faire un bilan thermique sur les copropriétés. Ensuite, si vous voulez, le fait de faire un choix intérieur ou extérieur, c'est assez simple et compliqué à la fois. Quand on prend une isolation thermique par l'intérieur, déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas éliminer et supprimer tout ce qui est pont thermique. Donc les ponts thermiques, ce sont les zones, en fin de compte, de liaison dans un bâtiment, au niveau des murs de refend, au niveau des planchers. Quand vous isolez une maison par l'intérieur ou un immeuble, quand vous isolez donc à l'intérieur, forcément il y a des ruptures au droit des différents étages et donc vous ne pouvez pas avoir une isolation continue. Dès qu'on parle d'isolation thermique extérieure, vous englobez la totalité du bâti. Donc les ponts thermiques, à part bien évidemment les balcons, mais tous les ponts thermiques sont, on va dire, recouverts par le mur manteau. Chose qu'on ne peut pas avoir par l'intérieur, puisque vous avez les murs et donc l'espace intérieur qui vous...
Et puis on perd des mètres carrés.
À cela vient s'ajouter, bien évidemment, une perte forcément de mètres carrés. Et qui dit isolation intérieure, dit forcément une salle de bain, si elle est contre les murs, et ce qui est toujours le cas, compliqué, il faut démonter toute la salle de bain. Idem pour la cuisine. Donc il y a beaucoup, beaucoup de contraintes liées à l'isolation intérieure qu'on n'a pas en extérieur. La performance est largement supérieure en isolant par l'extérieur et beaucoup moins complexe.
D'accord. Et quand je vous entends, il n'y a quasiment pas d'isolation par l'intérieur en réalité.
Alors, il y en a bien évidemment parce que des fois on a des soucis, on va dire, d'accessibilité.
Ou ponctuellement sur une pièce, mais c'est pas forcément l'immeuble.
Exactement. Après, la contrainte que l'on a, bien évidemment, en isolation extérieure, c'est le côté esthétique. Selon le type de bâtiment, bien évidemment, quand vous avez des immeubles avec de jolies façades, il est plus compliqué, mais c'est tout à fait réalisable, d'amener de la décoration, de briques, de corniches, d'ornements. C'est le coût qui va à un moment donné faire
C'est compliqué pour les maisons en meulière, non?
Alors c'est compliqué pour les maisons en meulière, mais on arrive aussi à faire des jolis, on va dire, trompe-l'œil ou faire carrément du parement. Ça existe.
Ça existe.
Oui.
Ça m'impressionne, là.
C'est le budget qui vient souvent un petit peu mettre le frein.
Donc, du coup, le budget doit être suffisamment élevé, forcément, pour parce que j'ai vu quelques maisons ex-meulières, et en fait, ils ont renoncé à avoir, l'aspect extérieur meulière pour refaire l'isolation thermique par l'extérieur, mais on voyait plus que c'était de la meulière, c'était fini.
C'est ça. Faut être vigilant par rapport à l'isolation, faut pas, effectivement, se cantonner juste à amener un mur manteau, il faut aussi soigner l'esthétique. Il y a des techniques qui existent, mais malheureusement, le budget vient toujours un petit peu mettre les holà.
On va marquer une première pause musicale.
Elle vient tous les matins, elle accroche son tablier comme tous les jours, comme si de rien. Elle se dit sa journée, sa vie entre ses mains, c'est pas celle que l'on connaît. C'est tous les jours le même refrain. Ah ah, serveuse à plein temps, heureuse à mi-temps, quand elle chante dans le café du coin, c'est vrai. Tous les gens ont une histoire qu'on ne raconte que certains soirs. Bonjour, à revoir. Hello, mira, hola, allô. Bonjour, à revoir. Adios, bye bye, thank you, ciao. Bonjour, à revoir. Elle rêve tous les soirs de cette vie qu'elle aimerait. Parfois tout gris, parfois tout gloire, sans jamais renoncer. Toi, qui es-tu dans le noir? Dis, est-ce que tu te connais? Aux quatre coins de ton miroir. Ah ah. Rêveuse à plein temps, peureuse à mi-temps, elle chante que dans la salle de bain, c'est vrai. Tous les gens ont une histoire qu'on ne raconte que certains soirs. Tout le monde est plein d'espoir. Ah, tous les mots sont dérisoires. On se regarde sans se voir et tout ce qu'on en retient, c'est bonjour, à revoir. À plein temps, chanteuse à mi-temps, c'est déjà ça, c'est déjà bien, c'est vrai. Tous les gens ont une histoire qu'on ne raconte que certains soirs. Tout le monde est plein d'espoir. Ah, tous les mots sont dérisoires. On se regarde sans se voir et tout ce qu'on en retient, c'est bonjour, à revoir.
Vous êtes toujours sur Radio IDFM. Nous sommes toujours avec Sébastien Fay de la société FCA, Cyril Vu d'Airpro Group et Alain Berekbaum de Partner NC. Donc nous continuons avec Sébastien Fay. Donc on parlait de l'isolation technique par l'extérieur. Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière de faire pour obtenir une bonne rénovation et les pièges à éviter?
Alors, le point de départ d'une bonne rénovation, c'est déjà de comprendre comment le bâtiment, effectivement, est déperditif. Donc, aucune bonne rénovation ne peut s'envisager sans avoir fait un diagnostic de performance énergétique globale de la maison. Une fois que le diagnostic énergétique a été établi, bien évidemment, on va déterminer les priorités, donc les axes sur lesquels on doit agir en premier.
Alors, par exemple,
une personne peut très bien nous demander d'isoler sa maison, et on va se rendre compte que la maison est déjà isolée par l'intérieur avec une épaisseur, donc, ou une performance suffisamment, on va dire, importante. Et comme aujourd'hui, on parle beaucoup d'isolation extérieure, ben, cette personne nous consulte. Peut-être que la priorité, vu que ces maisons sont déjà plus ou moins isolées par endroit, ne va pas être forcément d'amener une isolation thermique extérieure en premier en priorité. Par contre, vous allez avoir peut-être les combles qui ne vont pas du tout être isolés, et c'est là où on doit effectivement apporter une attention toute particulière. Rajouter à cela, pourquoi pas, si nous avons des fenêtres qui sont en simple vitrage, d'amener effectivement une rénovation à ce niveau. Et puis, au fur et à mesure, on apporte des compléments d'isolation, c'est de ne pas négliger surtout les systèmes de renouvellement d'air, donc pour que la maison continue à bien respirer, donc avec des systèmes de ventilation performants pour pouvoir justement être efficace dans la rénovation.
Mais là, ça vient un peu en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure, en disant on va raisonner globalement, les textes vont dans le sens où on va faire une rénovation globale, et là, vous nous dites, dans le diagnostic, pour être vraiment au plus proche du client, finalement, si ça se trouve, il faut revenir à la segmentation et dire, voilà la source de déperdition, on va soigner l'endroit où effectivement ça fait mal.
Alors exactement, mais il faut partir par ce qu'on appelle définir les priorités. Une maison qui est déjà légèrement isolée par l'intérieur, qui a peut-être, on va dire, un isolant de 8 ou 10 cm à l'intérieur, n'est pas obligée de passer par une rénovation lourde avec une isolation thermique extérieure, mais par contre de favoriser un, deux ou trois autres lots, à savoir l'isolation d'un plancher bas, l'isolation des combles, ou associé à ça, pourquoi pas, les fenêtres. L'isolation globale ne va pas dire systématiquement amener l'ensemble des lots. D'accord. On doit définir des priorités et ensuite agir avec le client sur ce qui va être pour lui le plus perspicace, en amenant, encore une fois, des travaux ciblés. Si bien évidemment le bilan énergétique vous dit que tous les points extérieurs d'une maison, à savoir les murs, les fenêtres, les combles, les planchers, n'ont pas d'isolation, bien évidemment on va travailler sur l'ensemble du lot.
Pour revenir sur la notion de passoire énergétique et de la réglementation qui fait le classement de A à G ou quelque chose comme ça, les contraintes légales, puisque dans les textes, on ne pourra plus louer les passoires énergétiques, le timing de la mise en place de tout ça aujourd'hui sur l'île de France, quel est le parc concerné est-ce que on sera prêt en temps et en heure par rapport au problème tel qu'il existe aujourd'hui et par rapport à la date butoir qui est fixée?
Alors, je pense que on aura énormément de mal, puisque on le voit depuis 3 ou 4 ans, on a on va dire des objectifs qui sont fixés justement, notamment par MaPrimeRénov, pour pouvoir justement rénover toutes les maisons.
Juste, qu'est-ce que c'est MaPrimeRénov?
Alors MaPrimeRénov, c'est l'organisme qui permet justement d'allouer, des aides. Et donc c'est une plateforme sur laquelle chaque personne doit effectivement enregistrer son projet pour pouvoir être éligible avec des montants d'aide différents en fonction des revenus.
D'accord. Donc ça, c'est la personne qui fait ça en parallèle ou c'est vous, quand vous constituez le dossier, qui accompagnez les personnes, vos clients?
Alors exactement. Donc ce sont des choses que l'on apporte comme complément d'information. On accompagne effectivement les clients vers ces plateformes. Maintenant, ce sont les personnes elles-mêmes qui doivent créer des
saisir.
Comptes, saisir les informations. Nous, en tant qu'entreprise, on ne peut que conseiller et orienter le client.
D'accord. Donc vous pensez que concrètement ça va être compliqué d'atteindre les objectifs par rapport à l'état du parc aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui on est en retard, on va rester en retard malheureusement, mais tout le monde essaye de faire au mieux. Après, les objectifs sont toujours un petit peu, on va dire, très très élevés par rapport à ce qu'on a la capacité de faire, notamment en plus quand on voit tout ce qu'on a eu comme problème d'approvisionnement en matières premières et autres. Aujourd'hui, la rénovation énergétique est assez quand même compliquée.
Donc, alors là, c'est un vrai sujet actuel. Entre, d'un côté, j'allais dire, toutes les économies d'énergie que nous devons faire les uns et les autres, donc la fameuse sobriété énergétique, et de l'autre côté, le timing des réapprovisionnements en produits. Aujourd'hui, toutes les matières premières, en tout cas certaines, flambent. Donc du coup, comment vous gérez cette situation-là? Est-ce que malgré ces hausses de tarifs, les livraisons sont quand même assurées globalement, ou au contraire, ça vous retarde des chantiers? Comment concrètement ça se passe?
Alors le souci, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur ce qui est disponible comme produit et ce qui ne l'est pas. On vit un petit peu au jour le jour. Du jour au lendemain, on vous annonce que on va avoir 3 semaines, 4 semaines de délai pour obtenir, par exemple, des menuiseries en aluminium. Alors que initialement on vous avait promis à la date J le produit. On a aussi les soucis sur tout ce qui est, on va dire, isolant. Les isolants, c'est un petit peu au coup par coup, on n'a aucune pénurie, et puis en une semaine on se retrouve avec 2 mois de délai sur un isolant pour souffler, par exemple, des combles perdus, ou ça va être à un moment donné un problème d'approvisionnement de rails en aluminium. Donc on n'a aucune visibilité, tout est au coup par coup aujourd'hui.
D'accord, donc du coup, pour faire les plannings des équipes, c'est compliqué.
Alors c'est extrêmement compliqué. On est malheureusement entre le marteau et l'enclume, puisque nos clients veulent forcément leurs travaux en temps et en heure, et nous on est prêt à pouvoir intervenir, sauf que 48 heures avant une livraison, le fournisseur nous dit pas de bol, je n'ai pas reçu mon semis et donc vous ne serez pas livré. Donc on jongle. Forcément, on essaye d'être, comment dirais-je, le plus réactif vis-à-vis de nos clients, mais quand on n'a pas forcément de visibilité et on est tributaire d'une livraison, on est nous-mêmes mis devant le fait accompli, et du coup, on est obligé de prévenir nos clients peut-être parfois la dernière minute, ce qui est pas très agréable puisque des fois on se fait tirer les oreilles. Mais on y est vraiment pour rien.
Et par rapport aux révisions tarifaires, j'allais dire, vos fournisseurs, aujourd'hui les hausses sont relativement conséquentes, en fonction du type de matières premières et de produits, en fonction des formules de fabrication. Donc du coup, par rapport aux devis que vous pouvez faire à vos clients, vous-même, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous êtes un peu coincé. Alors ça oblige à raccourcir la durée de validité des devis, tout ça ?
Eh ben tout ça, comme vous le dites, c'est effectivement maillé. Il faut réussir à produire les chantiers que l'on a en stock sans avoir un carnet de commandes beaucoup trop long, puisque sinon, entre le moment où on a établi le devis et le moment où on réalise le chantier, s'il y a plus de 6 mois, vous êtes certain d'avoir forcément un manque de marge, puisque entre temps, les fabricants auront augmenté leur matière première. Donc je suis en permanence dans modifier le planning, accélérer, trouver des solutions d'application. Ce qui n'est pas facile aujourd'hui, puisque beaucoup de main-d'œuvre nous manque, mais on a quand même la chance d'avoir une force de frappe assez importante chez FCA, et on a beaucoup de salariés en propre, ce qui fait qu'on a un pouvoir d'application assez important. Mais l'idée d'avoir 6 mois de boulot d'avance n'est pas forcément une bonne stratégie aujourd'hui. Il vaut mieux rester sur 1 mois et demi à 2 mois, et on limite effectivement les phénomènes de hausse qu'on a pu connaître sur le bois, sur l'aluminium ou sur l'isolant, et essayer de trouver des solutions d'application rapides pour ne pas justement avoir un carnet de commandes trop important.
Et de fait, ça vous oblige éventuellement à stocker pour éviter soit des ruptures, soit j'allais dire des hausses de tarifs, et donc d'avoir une trésorerie suffisante pour faire face à tout ça.
Alors effectivement, tout est maillé. On se rend compte que si on a un petit peu de trésorerie, on peut faire du stock quand on a la possibilité d'avoir la matière. Le problème en réagissant comme ça, c'est que chaque entrepreneur fait son stock, on augmente encore la pénurie. Donc c'est un vrai cercle vicieux, et c'est une vigilance de tous les instants. Après, concernant l'augmentation tarifaire, malheureusement, on n'a pas le choix que d'apporter des évolutions tarifaires au mois le mois sur nos devis. Donc tous les mois, on revoit effectivement, en fonction des augmentations tarifaires qui nous ont été proposées, nos prix et nos tarifs. Par contre, on essaye de maintenir, une fois qu'un client a signé son devis chez nous, de lui maintenir les prix indiqués.
Parfait. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez du lancement d'une gamme de produits éco-conçus. Donc, je vais vous demander de revenir sur ce point-là.
Oui, alors, FCA existe quand même depuis 35 ans. On a un partenaire historique qui est donc la société Sto. La société Sto est un fournisseur de matières de produits de ravalement de façade, mais donc c'est
allemand. Hein.
Allemand, exactement. Mais c'est également le leader de l'isolation thermique par l'extérieur. Et donc, on a réussi à obtenir, suite, on va dire, à notre sortie de notre franchise, une exclusivité avec ce fournisseur, de mettre en place, donc de mettre à la gamme des produits éco-conçus, qui sont des produits naturellement durables à base d'huile de pin, pour supprimer, on va dire, tout ce qui est liant à base de pétrole. Et donc ce ne sont pas des produits écologique, on est d'accord, mais il faut un début. Et donc ils ont
éco-responsables.
Exactement. Ce sont des produits éco-responsables, éco-conçus, qui sont produits donc à base de de matières premières en forte abondance ou renouvelables. Et les produits sont pour le moment donc chargés d'huile de pin en lieu et place de pétrole.
Parfait. Je vais vous demander maintenant quels sont vos plus. Puisqu'on a parlé de beaucoup de choses et de se dire, effectivement, FCA, c'est plus aujourd'hui sur l'Île-de-France, essentiellement.
Oui, exactement. Donc, sur l'Île-de-France, on a déjà énormément donc de travail à accomplir. Les plus de la société, c'est une stabilité, puisque c'est une société qui existe depuis plus de 35 ans, avec un savoir-faire incontesté, et notamment, donc nous, on travaille beaucoup sur des produits où on doit tout transformer chez le client. Donc notre grosse valeur ajoutée, c'est d'avoir des compagnons façadiers depuis de nombreuses années qui ont un savoir-faire important. Et le fait d'avoir cette expérience aujourd'hui nous permet d'amener chez nos clients une qualité de travail vraiment irréprochable.
Combien de salariés chez FCA ?
Alors chez FCA, on est 28.
28.
Sur donc l'agence FCA Nord et sur l'agence de Sceaux qui est, du même acabit, ils sont à peu près le même nombre de personnes.
Votre plus belle réussite, votre chantier le plus satisfaisant, valorisant en termes de réalisation?
Alors tous nos chantiers sont intéressants puisqu'on fait beaucoup de clients satisfaits, que ce soit esthétiquement ou que ce soit d'un point de vue confort. J'ai une petite référence qui est quand même très valorisante. Mais ça rentre pas dans l'isolation. Mais c'était une maison qui était en briques peintes blanches, très austère. Les clients nous ont demandé donc de faire un ravalement. Le souci, c'est que cette peinture ne tenait plus, et donc on a été obligé de décaper. Et lorsqu'on a décapé la fameuse brique qui était repeinte en blanc, on a découvert une brique extrêmement bien maçonnée, avec des mosaïques, avec des dorures, et on a révélé vraiment une façade qui s'est retrouvée aujourd'hui, sur notre site internet, on peut la voir, qui est aujourd'hui juste magnifique. Ça a été une révélation aussi bien pour les particuliers et pour l'entreprise.
Merci Sébastien, nous allons marquer une nouvelle pause et après nous reprendrons avec Cyril Vu de AirPro Group. Always say you love me but you always make it all about you, especially when you've had a few. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next, and have to put up with you. Oh yeah, worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right, yeah. But with you, it's always my fault and your short fuse, just like a time bomb. And I think you should take a second just to look at your reflection, baby.
Just perfection, baby, maybe you're the problem.
Après cette page musicale, nous sommes toujours sur IDFM 98. Merci d'être toujours avec nous et nous sommes toujours avec Sébastien Fay de la société FCA, Alain Bérec-Baume de Partner NC et Cyril Vu de Airpro Group. Donc maintenant, Cyril, présentez-vous et présentez-nous le groupe Airpro. J'ai vu qu'il y avait 6 sociétés différentes, donc la spécificité de chacune, sachant que effectivement vous êtes dans tout ce qui est impression 3D, donc c'est quelque chose de finalement très technique, assez mystérieux, parce que les implications sont j'allais dire presque infini. Donc, si vous pouviez rentrer dans le détail et si possible avec des exemples pour qu'on comprenne concrètement de quoi on parle.
Très bien, Paul. Bon, alors on va essayer de commencer par le début. Alors, l'impression 3D, ça existe depuis les années 80. Les premières idées, vraiment, c'est 1960. Hein, donc, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement récent comme on peut le penser, mais c'est vrai que c'est devenu plus public et ça a été plus médiatisé ces dernières décennies. Donc l'impression 3D, ça consiste à prendre de la matière et empiler de la matière couche par couche, donc avec des machines industrielles, plus ou moins chères. Il existe aussi maintenant des petits systèmes pour quelques centaines d'euros que beaucoup de particuliers, d'étudiants ont chez eux à la maison ou dans des bureaux d'études pour voilà extruder du plastique et empiler de la matière couche par couche. Donc voilà, alors Airpro, nous on a commencé en 1997, avec l'acquisition d'une première machine industrielle d'impression 3D.
Donc c'était une création, hein?
Une création, oui. Voilà, moi j'ai eu la chance de faire un stage en 1991 à l'aérospatiale de Châtillon, où j'ai vu la première imprimante 3D qu'il y avait en France, une machine de stéréolithographie. Donc une machine qui permet d'imprimer en 3D des pièces à base de résine, donc une résine photosensible, photopolymérisable, et avec qui réagit donc aux UV. Et donc un laser, quand le laser vient dessiner une section sur la surface de cette résine instantanément change d'état et elle passe de l'état liquide à solide. Donc on fabrique une couche, puis le plateau se baisse et on fabrique une deuxième couche jusqu'à créer la forme complète de la pièce.
Donc c'est un millefeuille.
Oui, c'est un peu un millefeuille, c'est la stratification. Donc voilà, 1991, je fais ce stage chez donc l'aérospatiale de Châtillon, qui est devenu MBDA maintenant. Et donc je faisais à ce qu'on appellerait aujourd'hui du machine learning, sur de la maintenance. Et donc comme je m'occupais de recenser de la data pour ces maintenances prédictives de machines, il y avait cette machine qui était dans les IMO, donc il fallait bien aller voir où elle était. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'impression 3D. Et j'ai aussi découvert cet avantage vraiment formidable, c'est que à l'époque, on commençait donc à pouvoir créer des objets en dessinant en 3D, donc à créer des fichiers 3D. On pouvait les mettre sur une disquette, les donner à cette personne, et en 3 jours de temps, au lieu d'attendre quelques semaines pour avoir une pièce, là, en quelques jours, on avait la pièce physique. Alors certes, elle était en plastique, on peut pas faire grand-chose d'une pièce en plastique dans un missile, mais elle permettait de vérifier que on pouvait faire les assemblages mécaniques, elle pouvait vérifier que il y avait pas de problème d'ergonomie, d'interfaçage entre des pièces ou de pièces qui auraient été trop de proximité, voilà.
Donc c'était des prototypages, c'est ça?
Oui, c'était vraiment. Alors c'est vraiment aujourd'hui et toujours une des plus grands cas d'application de l'impression 3D, c'est le prototypage. Donc voilà. Voilà, donc je découvre cette machine et puis je me dis que c'est vraiment un sujet d'avenir. Et donc avec mes parents, en 1997, on crée donc Airpro et on achète notre première machine de frittage de poudre laser sélectif. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais donc voilà, c'est une machine
qui connaît.
Parce que voilà, donc une machine
le frittage.
On parle de frittage. En fait, c'est une machine donc qui permet, avec une plateforme, d'étaler de la poudre de plastique et puis un laser qui vient faire fondre le plastique. La plateforme se baisse, on remet de la matière, donc on remet du plastique et puis le laser fait la couche suivante. Toujours cette histoire de millefeuille. Et puis quand c'est terminé, on enlève toute la poudre qui sert à rien et on récupère toutes nos pièces. Donc c'est assez incroyable parce que, par exemple, si je sais pas, on a tous une coque de téléphone, on peut faire des coques de téléphone sur mesure, personnalisées, et en quelques heures, on va créer, voilà, je sais pas, en une dizaine d'heures, on peut peut-être fabriquer 200 coques de téléphone différentes, toutes uniques. Voilà ce que permet aujourd'hui l'impression 3D. Et puis donc, en toutes ces années, on a nous connu beaucoup de croissance organique, croissance externe. C'est pour ça qu'on a plusieurs sites dans le nord de la France. On a un site à Tremblay aussi, tout à côté de Roissy-Charles-de-Gaulle, pas très loin du siège d'Alain, je crois. Et puis on a aussi voilà une usine qui est du côté de Valence. Et puis donc sur Saint-Leu-la-Forêt, là où on a le siège, on a aussi plusieurs entreprises.
Les sites sont spécialisés, ils ont des domaines de compétences particuliers les uns par rapport aux autres. Comment ça fonctionne? Il y a des complémentarités?
Alors, il y a
bien évidemment... C'est chaque fois des spécificités avec des lignes de production qui sont différentes, en fait.
Oui, chaque site a sa spécialité. Donc, à Le Quesnoy, donc 3 Nenor Factory est spécialisé dans le moulage plastique petite série. Donc ce qu'on appelle du moulage silicone et moulage RIM. Ils font aussi de l'impression 3D par extrusion, avec des technologies vraiment bien particulières. À Saint-Leu, on fait plutôt tout ce qui est prototypage, avec, c'est là où on a tous les plus gros moyens d'impression 3D, notamment le métal. Et puis, du côté de Tremblay, on est spécialisé plutôt dans l'injection plastique. Et Valence, on fabrique des pièces silicone. Bien évidemment, tous ces sites ont énormément de synergies.
Alors, quel type de synergie, par exemple, pour comprendre, parce que moi j'ai du mal entre les différents types de résine, métal, granulé. Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir plutôt un type de produit que l'autre? C'est la destination finale. C'est comment se font les choix?
Un peu comme Sébastien qui réalise des audits. Nous, notre client, alors soit c'est un client qui est bien rompu aux technologies de la fabrication additive et il sait exactement ce dont il a besoin. Ou alors c'est un client qui vient et qui a un projet. Donc, je vais prendre un exemple sur le cycle, par exemple, le vélo, toutes ces nouvelles mobilités. Donc le client va faire une maquette d'un vélo pour participer à un salon et il ne sait pas exactement comment s'y prendre. Ce qu'il sait, c'est que lui, il veut vraiment exposer un bel objet qui est le reflet à 100% de son vélo qui sortira en série plus tard. Donc là, on va mélanger les technologies de stéréolithographie, de fabrication additive métallique, mais peut-être que si on a besoin sur un assemblage particulier d'une pièce souple, on va demander à Le Quesnoy de nous faire un petit moule silicone et puis de venir surmouler par exemple une pièce plastique avec un joint. S'il y a une poche silicone sur la selle du vélo, eh bien c'est peut-être chez Silinov que cette pièce sera réalisée. Donc voilà, sur un projet, nous on répond bien évidemment de manière globale et puis on va dispatcher les différents travaux sur plusieurs sites si c'est nécessaire.
Alors j'avais vu un reportage sur la maison en 3D. C'est ça existe vraiment ou c'est une vue de l'esprit? Et après, sur la maison en 3D, peut-on faire de l'ITE, évidemment?
Alors, non, ça existe vraiment pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire que c'est plus facile peut-être d'apporter une machine et d'avoir directement la compétence qui est liée en fait à la machine. On déploie la machine sur le terrain et puis on vient fabriquer. On peut faire bien évidemment fabriquer des murs creux, des corps creux, donc peut-être améliorer toute la partie isolation. C'est aussi très, on imagine aussi, sur des missions spatiales, pouvoir mettre des imprimantes 3D pour venir construire des bâtiments dans des zones qui seraient peut-être difficiles. Je sais pas si un jour sur Mars il faut construire une maison, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc avec une imprimante 3D, c'est sûrement beaucoup plus simple, y compris sur des zones militaires, hein, bien évidemment. Donc oui, non, c'est pas une vue de l'esprit, ça fonctionne vraiment.
Donc ça fonctionne vraiment. Et en termes de coût, ça a un coût qui aujourd'hui est complètement, j'allais dire, ça se développe pas parce que aujourd'hui on est encore au stade où on est au début, donc les coûts sont beaucoup plus élevés et puis dans le temps ça va baisser, ou c'est concrètement c'est quelque chose qui, j'allais dire, on peut penser à des applications militaires sur des hôpitaux de campagne ou je sais pas.
Oui, je pense que c'est là où sera forcément déjà les premières applications, c'est plus évident sur des terrains compliqués, donc où il n'y a pas besoin de déployer d'hommes, et forcément c'est plus facile de mettre des machines. Après, pour nos maisons de tous les jours, je pense que c'est toujours un ratio entre ce que ça coûte en traditionnel versus ce que ça coûte avec ces nouvelles technologies. Pour l'instant, il y a des cas d'application où l'impression 3D peut être une meilleure solution, mais ça reste plus rare.
D'accord. Et aujourd'hui, même question qu'à Sébastien, dans le contexte actuel, sur tout ce qui est approvisionnement, sur tout ce qui est coût de l'énergie, est-ce que c'est un enjeu pour vous ou pas trop?
Alors oui, c'est un vrai enjeu. Alors d'abord, on a eu beaucoup de problèmes de manque matière, et notamment encore en 2022. 2021 et 2022, donc des matières premières qu'on n'arrivait plus à se fournir, des matières premières dont les prix ont énormément augmenté. Je pense bien évidemment à nos matières plastiques, mais aussi au silicone, par exemple. Et puis, pour transformer nos matières premières, que ce soit du métal ou du plastique, on a besoin d'énergie. Et donc, le coût de l'énergie va être un vrai sujet pour 2023. Donc, on essaie de trouver des solutions et de négocier, bien évidemment, avec nos partenaires. Mais oui, c'est un enjeu majeur pour nous.
Et vos clients, quels sont vos clients ?
Alors, on a la chance, et c'est ce qui rend notre métier passionnant, c'est d'avoir une grande diversité de clients. Donc, on a beaucoup de start-up, mais aussi des grands noms de l'automobile, comme Stellantis, comme le groupe Renault. On travaille à peu près pour tous les équipementiers automobiles. On travaille pour l'aéronautique, le spatial, le luxe, la cosmétique, le médical. Donc, ça, c'est absolument passionnant. C'est qu'on peut très bien travailler sur une trottinette, sur des nouvelles solutions de mobilité, de voitures, fabriquer des pièces qui vont dans l'espace, comme des brosses de mascara ou des applicateurs métalliques.
Dans tous les métiers que vous avez cités, j'ai l'impression que j'entendais Alain Bérec-Baum parler des métiers dans lesquels il intervenait. On va marquer une pause musicale.
T'es rien qu'un lossa, bébé. Tu me fais du vice all night. Fais pas ta rosta, bébé. Avec moi, tu tombes mal.
Je suis pas qu'un lossa, bébé. Tu te fais des films all night. Et tu me vois comme ça, bébé. Y'a rien de plus normal.
Je peux pas tout te donner maintenant, donne-moi du temps. Tu veux me balader, dis-moi c'est quoi ton plan. Fais-moi voyager en aller sans retour. Je te serai fidèle jusqu'au bout du parcours.
Tu m'as pris pour un autre, tu me juges avant la faute. Si c'était juste pour faire un tour sans lendemain, pourquoi aurais-je fait le plein?
T'es rien qu'un lossa, bébé. Tu me fais du vice all night. Fais pas ta resta, bébé. Avec moi tu tombes mal.
Je suis pas qu'un lossa, baby. Lossa. Tu te fais des films en night. Lossa. Et tu me vois comme ça, baby. Y'a rien de plus normal. Je peux pas toutes vous aimer, mon cœur est un coupé sport. Si je suis au volant, il nage même pas à bord. Donc si tu prends le siège, n'oublie pas la ceinture. Et quand tu vas descendre, n'oublie pas la peinture.
Pas de place pour une autre. Trop de bagages dans le corps. Avec moi, pas de détour. Sans lendemain, assure-toi de faire le plein. T'es rien qu'un lossa, bébé. Tu me fais du vice all night. Fais pas ta resta, bébé. Avec moi tu tombes mal.
Je suis pas qu'un lossa, bébé. Tu te fais des films all night. Et tu me vois comme ça, bébé. Y'a rien de plus normal.
Main dans la main et côte à côte.
Te dire je t'aime jusqu'à l'aube.
Même au bout du monde, je serai jamais loin.
T'es rien qu'un lossa, bébé. Et si je m'éloigne de temps en temps, au fond je ne fais jamais semblant.
Mon cœur met des virgules mais jamais de point.
T'es rien qu'un lossa, bébé.
Lossa.
Tu me fais du vice all night.
Lossa.
Fais pas ta resta, bébé.
Lossa.
Avec moi tu tombes mal.
Lossa.
Je suis pas qu'un lossa, bébé.
Lossa.
Tu te fais des films all night.
Lossa.
Et tu me vois comme ça, bébé.
Lossa.
Y'a rien de plus normal.
Merci d'être resté avec nous. Vous êtes toujours sur IDFM 98 avec Sébastien Fay de la société FCA, Alain Bérec-Baume de Partner NC et Cyril Vu d'Air Pro Group. Donc nous continuons avec vous, Cyril. Est-ce que, bon, on a bien compris à travers vos métiers que vous êtes un industriel finalement, et donc par rapport à la réindustrialisation de la France, aujourd'hui comment vous voyez les choses? C'est facile d'être un industriel en France aujourd'hui, et à l'avenir ça va devenir beaucoup plus facile?
Alors non, je crois que pour être un industriel en France, il faut aimer l'industrie. Hein, si c'est pas une passion, moi l'industrie, la technologie me passionne. Je pense que sinon, on a tellement d'ennuis, pour être poli, que je pense qu'il vaut mieux faire autre chose. Mais la réindustrialisation, la France 2030, c'est un vrai sujet. Nous sommes des industriels, effectivement. On a deux catégories de clients aujourd'hui. On a nos clients qui viennent, et depuis la création d'Air Pro, qui nous demandent des maquettes et des prototypes. Ça peut être un nouveau flacon de parfum, ça peut être des nouveaux phares feu, des nouvelles calandres. Comme je le disais, un nouveau vélo. Mais on a aussi toute une typologie de clients qui souhaitent utiliser l'impression 3D pour fabriquer en série leurs objets. Voilà, on a déjà, par exemple, j'ai envie de citer une très belle application pour Atoll les opticiens. On fabrique en impression 3D des lunettes pour un programme qui s'appelle Lexilence pour des enfants dyslexiques. Donc voilà, la façade et puis les branches sont imprimées en 3D. C'est ensuite assemblé par une start-up qui s'appelle Abeille, qui a été incubée par Atoll les opticiens. Bref, un produit extrêmement technologique, un produit génial et qui est fabriqué en France. Et grâce à l'impression 3D. Donc voilà, on essaye de promouvoir ces technologies parce que c'est une manière de produire local, de produire à la demande, sans stock, sans outillage. Donc c'est énormément de promesses qui sont finalement c'est un véritable levier, je pense, pour la France et pour l'industrie française de fabriquer local. C'est l'impression 3D n'est pas la seule technologie qu'on maîtrise. On fait aussi beaucoup d'injections plastiques avec deux sites en France qui là aussi permettent de produire des pièces en plastique avec aussi et beaucoup de matériaux qui sont éco-responsables à base non pas cette fois-ci de pain comme le disait Sébastien, mais nous c'est plutôt l'huile de ricin. Donc des matériaux qui sont, comme on le dit beaucoup en anglais, sustainable, donc qui permettent de faire du développement durable. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel on apporte vraiment beaucoup de conseils à nos clients. Et on imagine vraiment que avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, qu'il y aura une vraie prise de conscience et un retour au made in France et au fabriqué en France.
Donc en fait, on parle plus de réindustrialisation éco-responsable à forte valeur ajoutée, en fait.
Oui, je pense que par exemple, le Covid, à un moment donné, a démontré un truc absolument extraordinaire. C'est que d'abord, grâce à l'impression 3D, tout d'un coup, on a pu fabriquer, tous les acteurs se sont fédérés, on a pu fabriquer en quelques jours des dizaines de milliers de visières. Et puis, par exemple, quand il a fallu doubler la fabrication des respirateurs, on a Air Liquide, bien évidemment, qui est le leader en France, et je crois d'ailleurs le seul acteur. Nous, on a pu contribuer à fabriquer des outillages, etc., pour aider à augmenter les cadences de fabrication. Donc on s'est rendu compte tout d'un coup qu'on avait une industrie, on a une industrie qui a énormément de savoir-faire, qui maîtrise absolument des technologies innovantes. Donc voilà, il faut faire confiance à notre industrie, il faut l'aider. Je pense que notre président Macron l'a bien compris, il l'avait déjà compris avant d'être président. Et j'espère qu'il y aura un vrai élan global et que l'on va pouvoir fabriquer demain des produits français sur notre territoire.
Parfait, c'est passionnant. Aujourd'hui, y a-t-il des nouvelles technologies de production dans lesquelles vous souhaitez investir? Où vous voyez une évolution de votre marché?
Oui, je peux peut-être faire cette petite retour en arrière. En 2017, on a créé une start-up qui s'appelle Airpro 3D Factory, donc qui est basée à non loin d'ici, à Saint-Leu-la-Forêt, dont la vocation était de fabriquer en grande série des pièces grâce à l'impression 3D. Le premier client qui nous a fait confiance avant Atoll les opticiens que je citais, c'est Chanel. Et donc on a commencé à fabriquer des brosses de mascara par millions d'exemplaires. Donc voilà, donc on a en fait créé une entreprise, une usine du futur. On a d'ailleurs été labellisé, on est une des rares entreprises en France à avoir été labellisée vitrine industrie du futur. On est l'excellence de la French Fab, on fait partie du réseau BBI Excellence. Et ce qu'on a réussi à faire pour le polymère, on a très envie de le faire aussi pour la pièce métal, donc la pièce métal imprimée en 3D, en petite et moyenne série, avec une nouvelle technologie qu'on appelle le metal binder jetting, donc une technologie beaucoup plus productive. Et donc c'est une technologie dont on regarde cette techno depuis 2019, et puis on a eu donc on a investi une machine il y a à peu près un an, et donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir là encore pour industrialiser local, fabriquer local, voilà, petite et moyenne série de pièces métalliques.
Parfait. Aujourd'hui, tous ces développements demandent des moyens financiers, évidemment. Vous aviez sollicité ou pas des prêts garantis par l'État, donc les fameux PGE au moment du Covid. Est-ce que vous vous trouvez confronté au début des remboursements? Comment ça se passe? Comment cette période-là, où ces contraintes-là s'inscrivent par rapport à vos projets de développement?
Oui, alors là, effectivement, Paul, vous mettez le doigt sur un de nos soucis majeurs. C'est qu'effectivement, on a un modèle économique où on a toujours énormément investi. Une imprimante 3D chez nous, en moyenne, ça vaut 500 000 d'euros. Et on en a des dizaines. Donc on est sur un modèle qui fonctionne bien quand l'économie est dynamique. Quand tout s'arrête, comme c'était le cas en mars 2020, eh bien tout se complique puisqu'on doit continuer de rembourser nos machines et pour autant on n'a plus rien pour les alimenter. Donc on a fait bien évidemment tout de suite une demande pour avoir recours à des PGE. Voilà, on a pris 2,4 millions d'euros de PGE. Donc c'est, vous savez, à l'époque on avait le droit de demander jusqu'à 25% de notre chiffre d'affaires. Donc on n'a pas tout à fait demandé les 25%, mais pas loin. Et puis on a commencé à les rembourser. Alors, si vous voulez, quand on a pris ces PGE, on se doutait bien que le remboursement serait peut-être compliqué, mais souvent, après des phénomènes comme ça, mondiaux, de décroissance finalement, l'économie repart en général de plus belle.
Il y a un rattrapage.
Bon, c'était sans compter sur une guerre en Ukraine, c'était sans compter sur une crise de l'énergie, c'était sans compter sur tout d'un coup une course à l'électrification des véhicules un peu folle et qui change complètement le paradigme automobile, et qui, je le rappelle, est notre premier client, le secteur automobile. Donc on a énormément et on souffre encore. Donc SCPGE nous étrangle effectivement. Voilà, donc on est une espèce d'équation terrible où à la fois il faut qu'on continue d'investir, mais les banquiers ne nous soutiennent pas, pas du tout. La réponse que nous formule à chaque fois, mais si vous avez eu des PGE, donc ils confondent le fait que les PGE nous ont été accordés pour nous donner en fait une bouffée d'air et nous donner un certain niveau de trésorerie, mais pas du tout pour acquérir de nouveaux moyens de production. Donc c'est deux choses différentes. Donc aujourd'hui, c'est assez compliqué. Oui, ces PGE nous étranglent et on va prendre des mesures pour essayer de les renégocier.
Donc du coup, la priorité est au PGE et pas à l'investissement dans de nouvelles machines productives.
Et oui, enfin, c'est ça qui est terrible.
Vous êtes un peu dans un effet ciseau.
Oui.
Vous êtes obligé de sacrifier l'avenir pour le présent ou pour avoir un avenir.
En tout cas, exactement. Je pense que ces PGE étaient une excellente solution à un problème qui est arrivé très vite, donc une excellente réponse du gouvernement. Maintenant, tout ce qui s'est passé derrière, je pense, était imprévisible. Mais ces PGE nous ont sauvés. Nous ont permis aussi de sauver beaucoup d'emplois, même si on a dû se restructurer, on a dû faire des licenciements économiques, mais pour autant on est passé d'un peu plus de 100 personnes à 83 personnes, on est redevenu presque 90 aujourd'hui. Donc voilà, ça nous a sauvés, c'est sûr, et aujourd'hui ça nous étouffe.
C'est un challenge à relever, un de plus.
Exactement.
La joie d'être entrepreneur.
Mais je pense que heureusement, j'ai une équipe extraordinaire. Voilà, donc tout le monde comprend nos enjeux, on a tous les manches retroussées, on a aussi une clientèle incroyable, on a plein de projets qui sont géniaux, donc voilà, tout ça nous donne beaucoup d'énergie, et on se lève tous les matins avec la même envie de réussir, et ces PGE qui nous ont sauvés, c'est pas eux qui vont nous faire mourir, c'est sûr.
Alors, ça me fait une excellente transition sur mes deux dernières questions. C'est quels sont les plus d'Air Pro Group et votre plus belle réussite?
Alors, donc Air Pro existe depuis de nombreuses années, donc on a une expérience incroyable. Enfin voilà, forcément une équipe derrière qui est enfin voilà, une équipe magique. Hein, on est capable de soulever des montagnes. Nos plus belles réalisations, c'est depuis 1997, on a eu tellement que c'est difficile d'en choisir une. Voilà, peut-être ce qui a changé le cours des choses chez nous, c'est le jour où on a réussi à convaincre Chanel d'utiliser l'impression 3D pour faire des brosses de mascara et qu'on a été peut-être une des premières entreprises au monde à utiliser l'impression 3D pour fabriquer une pièce en série et qui a été utilisée dans le monde entier. Donc voilà, je pense que c'est parmi plein d'autres, hein, mais il faudrait qu'on reste toute la journée ensemble, Paul, pour que je vous raconte tout ce qu'on fait tous les jours d'absolument incroyable. Mais voilà, peut-être, en tout cas, cette application a permis d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire où on a montré à l'ensemble de nos clients que l'impression 3D, alors à l'ensemble de nos clients, mais dans le monde aussi, hein, que l'impression 3D pouvait être utilisée non pas à des fins de prototypage uniquement, mais aussi pour faire des pièces en série.
Donc le monde entier utilise des produits Air Pro Group sans le savoir.
Oui, on a aussi développé une gamme d'accessoires avec Peugeot pour la nouvelle 308 et puis prochainement pour la nouvelle 408. Je disais à tous les opticiens, on fabrique des semelles orthopédiques par milliers toutes les semaines qui sont envoyées dans toute la France pour aider en fait les patients voilà, à avoir des chaussures plus confortables et à réduire certaines pathologies. Donc c'est juste exceptionnel tous les projets qu'on voit passer tous les jours, que ce soit, je sais pas, on a fait des choses pour Netflix il y a peu, on a équipé après les grandes vacances, on a équipé des vitrines Dior pour le monde entier, enfin voilà, il y a des sujets tous différents et tous plus passionnants les uns que les autres.
Merci Cyril, une nouvelle page de musicale.
I play the old refrain. You say white, I say black. First you leave, then you wanna come back. No matter the season, I see the cold on your face. You don't need a reason to laugh at my disgrace. It's only a fusion. It's not my love that you chase. As a conclusion, it's just a warm embrace. Change is still the same. You take it slow, I'm on the fast lane. You go left, I go right. Moving on, baby, don't look back. No matter the season, I see the cold on your face. You don't need a reason to laugh at my disgrace. It's only a fusion. It's not my love that you chase. As a conclusion, embrace. It's not so easy to love someone.
Vous êtes toujours sur IDFM 98 avec Sébastien Fay de FCA, Cyril Vu d'Airpro Group et Alain Béric-Môme de Partner NC. Donc Alain, présentez-vous et présentez votre groupe, s'il vous plaît.
Eh bien, bonjour à tous. Après avoir écouté deux industriels, je suis moi dans l'activité du service, secteur du service, transport et logistique, entreprise que j'ai eu le plaisir et que j'ai la passion d'animer depuis 31 ans, puisque cette entreprise a été créée en 91, spécialisée dans le secteur du transport et de la logistique, comme je disais, très orientée activité aérienne et maritime dans le monde. Entreprise qui, à ce jour, réalise un chiffre d'affaires dans le monde de 45 millions avec 120 collaborateurs. Nous avons des bureaux en France, nous avons des bureaux au Moyen-Orient et en Chine. Donc c'est intéressant de voir comment travailler avec différents pays, différentes nationalités, bien entendu. Entreprise vouée au service du client, pour le client, afin de participer au transport, activité à l'heure actuelle très tendue, surtout après les deux années que nous avons passées. Nous citions tout à l'heure mars 2020, où tout s'est arrêté pour suite au Covid. Et là, ça a été pour nous un moment très fort où il a fallu réfléchir comment poursuivre nos activités lorsque l'atelier du monde, qui est la Chine, ne fonctionne plus, lorsque les avions sont cloués au sol parce que les restrictions sanitaires interdisent les transports et que l'activité maritime est terriblement, je dirais, chahutée.
Alors, j'ai compris que votre slogan, c'était « Never give up », donc ne jamais abandonner. C'est tant pour vous que pour vos clients ?
Alors oui, parce que dans une période troublée comme ces deux dernières années, il était certain qu'on ne pouvait pas rester sur nos acquis. Et il fallait absolument trouver des idées nouvelles, comment bien sûr maintenir l'emploi de nos structures, comment acheminer certains produits dont nous avions en Europe grand besoin. Je pense aux masques, où on a su trouver la bonne solution pour fournir en grande quantité de ces produits pour pouvoir donner satisfaction aux hôpitaux, cliniques et autres établissements nationaux.
Donc j'ai vu dans les différents métiers avec lesquels vous travaillez en priorité dans les différents secteurs, bah c'est un peu les mêmes que ceux qu'a nommé tout à l'heure Cyril, c'est-à-dire aussi bien l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale, le luxe. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait tout ce qui était BTP énergie. Là, ça m'a un peu plus interpellé. Comment le transport international intervient au niveau BTP énergie ?
Alors, les grandes entreprises du BTP ont des contrats à l'international et il y a un savoir-faire en France, un savoir-faire en Europe. Et lorsque nous devons produire des palais, des ministères, des cliniques, des universités, l'Europe a cette qualité de produit qui nous permet de nous placer et de pouvoir acheminer soit par la route, en fonction des destinations, soit par voie maritime, soit par voie aérienne, différents produits qui seront le fleuron de notre pays.
Donc c'est les produits, c'est les créations de base-vie des chantiers, c'est ça ?
Il peut y avoir, au tout début, il peut y avoir l'acheminement de base-vie, mais ensuite, il y a tout ce qui est mobilier, tout ce qui est électronique, pour pouvoir, par exemple, pour des universités, offrir des étudiants à l'étranger des qualités d'éducation et de cours de haute qualité.
Alors j'ai vu que des en matière de transport maritime, par exemple, CMA, CGA avaient fait des résultats records. Donc est-ce que la reprise, ce dont on parlait tout à l'heure aussi, la reprise post-Covid a amené un surplus d'activité qui fait que, à la limite, vous avez du mal à suivre?
Alors, il y a eu pendant ces deux années, effectivement, pas mal de difficultés dans le transport et dans la logistique. Il est vrai, et ça a pu causer des problèmes à certaines entreprises, PME, ETI ou grands groupes, sur les coûts de transport, puisque parfois, le coût de transport était égal, voire supérieur, à la valeur des marchandises transportées. Heureusement, depuis quelques mois, quelques semaines, nous retrouvons un niveau de transport, surtout dans le maritime, très compétitif, qui permet là de pouvoir redévelopper l'activité dont on avait grand besoin et poursuivre, nous l'espérons en 2023, une activité soutenue. Malgré un contexte géopolitique difficile, comme nous le citions tout à l'heure, les événements en Ukraine ne facilitent pas les choses à l'heure actuelle.
C'est-à-dire que ça détourne un certain nombre de routes. Alors, en termes de transport,
effectivement,
on survole donc plus l'espace ukrainien, enfin voilà, des éléments comme ça.
Voilà, ce sont des facteurs qui touchent là principalement l'activité aérienne, où il est bien entendu compréhensible que nous ne puissions pas utiliser des compagnies aériennes qui pourraient survoler le territoire russe et tous les pays environnants. Donc on passe plus sur des routes sud, ce qui entraîne un léger allongement des temps de vol et qui bien sûr augmente la consommation en kérosène des appareils.
L'arbitrage entre, souvent c'est un cumul, il y a à la fois de l'aérien, du maritime, du transport par route. L'arbitrage se fait comment? C'est un arbitrage coût, c'est un arbitrage délai? C'est vous qui faites une proposition à vos clients?
Alors, en fonction d'une part des contrats, nous avons soit pour des produits à haute valeur ajoutée, je pense aux produits pharmaceutiques, il est clair que là, la notion de rapidité est indispensable. Sur des contrats de chantier, il est clair qu'il y a ce qu'on appelle une douce alchimie entre le transport maritime ou le transport route. Et ensuite, lorsque nous arrivons en fin de contrat, c'est-à-dire au moment où le chantier doit livrer la réalisation, il est clair que là, nos clients privilégient le transport aérien.
D'accord. Une question aussi, toujours sur les enjeux, le Brexit, ça a été une opportunité ou une menace?
Alors, ça aurait pu être une menace si nous ne nous étions pas préparés, même si ça a été un peu compliqué, parce que les négociations entre la France, l'Europe, on va dire, et l'Angleterre ont tardé un petit peu. Il a été clair qu'on ne pouvait pas rester sans solution. Société de service, nous devons proposer des solutions rapides. Donc nous avons mis en place, lors du démarrage du Brexit, des navettes quotidiennes, plusieurs navettes par jour, pour pouvoir effectuer le transport, mais surtout assurer les opérations de douane. Donc nous avons ouvert des postes de douane à Dunkerque, à Calais par exemple, pour pouvoir dédouaner et pré-dédouaner afin que nos clients ne subissent pas d'attente dans les ports pour ne pas pouvoir livrer en temps leurs clients. Donc il faut être, je dirais, et c'est la qualité de ces activités dans le service, c'est être très très réactif et à l'écoute de ce qui se passe dans le monde.
En préparant cette émission, vous m'aviez dit que vous étiez dans un secteur qui recrute, mais qui a du mal à trouver des talents.
Eh oui, alors, bon, nous ne sommes pas le seul secteur en difficulté, mais il est clair que nous constatons une difficulté notoire dans le recrutement de candidats dans différents postes, différents niveaux hiérarchiques. Il sera employé, agent de maîtrise, cadre. Pendant longtemps, j'ai pu connaître la période où nous demandions aux candidats dites-moi ce qui vous me permettrait de vous choisir parmi les autres. Depuis, on va dire, quelques mois, on constate un retournement. C'est plutôt le candidat qui vient vers vous et qui dit « Pour rejoindre votre entreprise, faites-moi rêver ». Et je pense que c'est très vrai. Le marché de l'emploi est très tendu et il est difficile, si nous n'avons pas de projet à leur offrir, à recruter les générations futures.
Alors, c'est une très bonne transition sur mes deux dernières questions. Comment vous faites rêver vos clients et vos futurs salariés et votre plus belle réussite ?
Alors, ce qui est très important lorsqu'on est chef d'entreprise et surtout dans tous les secteurs, mais dans le secteur du service, nous n'avons pas de produit. Notre produit, ce sont les hommes. Donc il faut porter les hommes, au sens large du terme, vers une passion, un enthousiasme qui permet de les engager vers le service, vers la satisfaction client. Ça, c'est indispensable. Donc là, c'est un travail d'équipe. Je disais souvent, le chef d'entreprise doit être un chef d'orchestre. Je dirais maintenant que c'est plutôt un guide de haute montagne. Pourquoi ? Parce que un chef d'orchestre, bien sûr, n'est pas le premier violon, n'est pas le prix de Rome, mais il doit mettre en mesure l'ensemble de ses instruments. Un chef d'entreprise, maintenant, vu ce qui s'est passé dans les dernières années, il doit prévoir l'imprévisible, c'est-à-dire qu'un guide de montagne pourra tout préparer, mais bien sûr, il aura un défi terrible avec la météo. Et rien de plus terrible que d'emporter des personnes jusqu'au sommet et de ne pas atteindre le sommet. Pour moi, un chef d'entreprise est un peu ce guide de montagne parce que on prévoit tout avec des budgets, avec des investissements, bien entendu. Mais bien sûr, la géopolitique étant présente, du jour au lendemain, tout ce que nous avons prévu peut s'écrouler. Et là, il est important de fédérer nos équipes pour garder un esprit d'entreprise fort.
Merci Alain. Merci à tous les trois. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonne année à vous et à ceux qui nous écoutent. Merci à Francky pour la technique. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt. Au revoir à tous.
Au revoir et bonne année à tous.
Bonne année.
Thank you.